La France prenant une mesure unilatérale de taxation des mouvements de capitaux, c'est un encouragement à les faire fuir. L'argument est imparable. Maintenant que l'Europe prenne une mesure coordonnée de fiscalité du capital et du mouvement du capital, ça devient un problème de politique internationale, de négociation avec les États-Unis. Donc je pense qu'il y a une dimension. Je suis aussi méfiant par rapport à l'idée d'un eurochauvinisme. Certains disent il ne suffit pas d'être européenne de raison, il faut être européenne de cœur. Moi, je ne vois pas pourquoi. Culturellement, je me sens plus proche des Andalousies que de la Scandinavie ou de la Rhénanie. Donc c'est pas un destin. Je suis contre une mystique européenne. Mais en revanche, pragmatiquement, il y a une logique de construction économique et qui définit un espace pertinent aujourd'hui dans lequel peuvent s'inscrire des propositions offensives. De ce point de vue-là, je crois que c'est possible. C'est pour ça que j'insiste sur ce côté européen, c'est-à-dire de prendre l'Europe comme un vrai problème et donc dans lequel doit se projeter une construction d'un espace social, d'un espace culturel qu'on peut faire vivre comme tel, sans l'opposer forcément. Dans ce contexte-là, le protectionnisme peut être une arme d'une politique économique. Moi, je l'explique pas. Il peut y avoir un protectionnisme européen. La condition étant que ce ne soit pas un outil de puissance, de mon point de vue, mais un instrument de défense, de contenu et de politique sociale. Si on faisait l'analogie avec l'affaire des magnétoscopes, qu'on doit avoir oublié de 83, les magnétoscopes japonais bloqués à Poitiers par Jobert à l'époque, bon, c'était idiot et impopulaire parce qu'en parallèle, il n'y avait pas une politique d'emploi et de régression du chômage qui légitime de telles mesures. Le problème des mesures protectionnistes, pour moi, elles sont légitimes dès lors qu'elles protègent des politiques sociales actives et que du coup, elles peuvent envoyer un message intelligible en direction de ceux qui sont de l'autre côté de la barrière protectionniste. Donc c'est une série de mesures, on peut faire du protectionnisme et en même temps avoir une autre politique sur la dette du tiers-monde. On peut faire du protectionnisme et avoir une politique dans le cadre du BIT sur la défense des droits sociaux, etc. Et du coup, ce n'est pas un problème pour moi de principe doctrinal. C'est un protectionnisme pour quoi faire et pour protéger quoi. Mais de ce point de vue-là, il peut y avoir des formes. Bon, même dans une Europe qui se construit, ce n'est pas du protectionnisme. Mais par exemple, je pense que la laïcité scolaire française, à condition de la redéfinir, peut très bien se défendre en déclinant de manière bien comprise le principe de subsidiarité. Je ne vois pas pourquoi on irait noyer le budget scolaire d'un budget scolaire européen dans lequel les principes même de rapport à la politique, à l'espace public sont différents. Là-dessus, sans se gargariser de l'exceptionnalité française, je pense qu'il y a des choses à défendre. Et qu'à l'évidence, la politique des cantons suisses en matière scolaire n'est pas homogène. Je ne vois pas pourquoi il y aurait une politique scolaire européenne qui forcerait à s'aligner sur tel et tel système. Alors ça, c'est un des verrous, c'est comment redéployer les dimensions de l'action sociale, de l'intervention, des propositions. Je crois qu'on n'y arrivera pas si on n'arrive pas à faire vivre réellement, y compris dans les têtes, un espace qui conjugue, qui ne dissout pas l'un dans l'autre, mais qui conjugue le national, voire le régional et la dimension européenne. Alors quand tu parles de visibilité des projets, il y a un deuxième problème, un deuxième verrou à ça. C'est que le renouvellement modeste des pratiques sociales n'a pour le moment pas d'équivalent, même modeste, sur le plan du paysage politique. Parce que finalement, rendre visibles des propositions, c'est cristalliser une série d'expériences dans des programmes qui ont une certaine cohérence de transformation. Or, aujourd'hui, tout le problème, c'est qu'est-ce qui va devenir, là on serait dans un débat plus directement politique au sens présent et actif, quel est l'avenir, si elle en a une, de la gauche européenne? Si l'avenir, c'est un engloutissement ou une satellisation de tout ce qui a été, dans sa pluralité ou sa diversité, l'héritage de la gauche, dans une social-démocratie de plus en plus social-libérale et blairisée, bon, évidemment, c'est pas une alternative au capital, c'est un accompagnement social de la libéralisation. Est-ce que le renouveau des pratiques, des luttes, des résistances sociales peut donner lieu à une cristallisation politique dans les années à venir? Alors pour le moment, on voit très bien l'inventaire. C'est que je crois que la tendance dominante largement, c'est effectivement la satellisation autour d'une social-démocratie, mais dont le centre de gravité se déplace. En France, finalement, on a une vision un peu déformée, parce que Jospin, même si personnellement, il m'arrive de vitupérer, Jospin est quand même la gauche de la social-démocratie européenne. Peut-être par son histoire, mais indépendamment de ça, à cause des rapports de forces sociaux existants en France. Ils ne sont pas très bons, mais vu de l'étranger, ça surprend encore. C'est-à-dire dire 95, le pays où Le Pen était à 15%, et en même temps le pays qui peut connaître des grèves de masse sur le service public, ou la sécurité sociale, ou des manifestations massives sur les lois Pasqua Debré. Il y a une contradiction sociale qui est vivante, qui est très décalée par rapport à la force numérique des syndicats, etc., qui fait qu'on ne peut pas jouer trop avec ce rapport de force. Mais la tendance dominante, c'est pas ça. C'est la rencontre Prodi, Clinton, Blair à Washington sur le thème de la troisième voie mondiale. Donc plutôt d'une transformation de la social-démocratie en parti démocrate, qui n'est pas uniquement un discours idéologique de type Giddens, Hombard en Allemagne, etc., mais qui renvoie y compris à une transformation profonde des liens de la social-démocratie avec les milieux d'affaires, avec la société, une bourgeoisie d'État de plus en plus intégrée à la bourgeoisie d'affaires. Elle garde un lien social, évidemment. C'est ce qui fait qu'il y a une contradiction et que personnellement je peux voter pour la gauche au deuxième tour contre la droite. Mais ceci dit, ça n'a pas masqué le fait qu'on n'est pas la social-démocratie de Léon Blum et de Jaurès, ça c'est évident. Alors, ça c'est la tendance dominante. Elle produit des contre-tendances pour le moment très minoritaires. Mais. Qui sont un phénomène de refondation communiste en Italie. Enfin, il y a, en gros, dans tous les pays, sous une forme ou une autre, il y a 5 à 8% de l'électorat qui exprime un projet ou le souhait d'un projet radical, disons, pour reprendre les formules bourdieusiennes, d'une gauche de gauche, d'une gauche rouge, mais enfin, de maintien finalement d'une alternative radicale à la social-démocratie. Alors en Angleterre, on verra aux européennes, c'est un petit événement dans la circonscription de Londres, c'est une extrême gauche en dehors du Parti travailliste, alors que l'extrême gauche anglaise était ultra sectaire et divisée, mais importante. Bon, ils regagneront peut-être même, y compris le Grand Londres, parce que Livingstone peut être réélu. Là, il y a un parti qui s'est formé en Écosse, il y a le PDS en Allemagne, la Refondation communiste en Italie. Il y a la nouvelle coalition basque autour d'Herri Batasuna qui est un vrai tournant dans la situation au Pays basque. Et puis bon, là, mais c'est notre problème à nous, mais là, c'est la tambouille française. Moi, je crois, là, ça reste entre nous, enfin, j'ai aucun problème à le dire publiquement, mais qu'en gros, il y a un bouchon dans la vie politique française qui est le PC, qui est l'héritier d'une forme de radicalité, mais qui en même temps en fait rien en réalité. Donc le problème c'est de savoir, c'est pas du tout de dire comme Cohn-Bendit ou autre, le problème c'est de tuer le PC, mais de savoir s'il peut sortir, si ce gros morceau d'histoire représenté par le Parti communiste va être pour une part absorbé, aimanté durablement par le jeu institutionnel de clientèle électorale autour du PS. Je crois que Robert Hue a pas d'autre projet qu'une survie d'appareil en partenariat durable avec le PS, et puis le reste s'évapore dans la confusion, mais enfin, donc ça, sans rien laisser de vivant. Bon, moi maintenant je pense qu'il sortira quelque chose, il survivra quelque chose du PC que sous un choc extérieur, c'est-à-dire que s'ils sont confrontés à un rapport de force qui les fait bouger. Je dis pas qu'on sera capable de le faire, hein, c'est très compliqué. Comment s'articule le renouveau du mouvement social, l'extrême gauche, le PC et les Verts. Mais enfin, c'est ce qu'on va essayer de faire, sinon on ne voit pas. En tout cas, c'est un élément de réponse à ta question. C'est-à-dire que le programme, il y a l'invention, disons, rampante dans le social, mais à moins de dire que le social se projette directement dans la politique et s'auto-institue société, ce qui était la position des anarchistes en Catalogne, qui me paraît perverse, moi je tiens beaucoup justement à l'idée que la politique c'est pas le prolongement mécanique du social, qu'il y a un langage, il y a un code, il y a un espace spécifique à occuper, et du coup il faut que les deux se conjuguent d'une certaine manière. Alors ça c'est le problème, c'est comment transcrire dans le champ politique les éléments de renouvellement des pratiques sociales.
Et qu'est-ce que tu réponds à l'axe trotsko-baladurien Kania.
Et ça, c'est oui, mais ça me paraît un fantasme kanien. Alors, je ne sais pas d'où il sort.
Pour le monde, c'est pas forcément un fantasme.
Oui, mais enfin, le monde, l'attelage Plenel Colombani, c'est quand même anecdotique. Bon, je ne sais même pas d'ailleurs s'il y a un élément de fondement. Non, ça me paraît. Je vois pas quel est l'élément de réalité derrière, si ce n'est justement à la limite une rumeur anecdotique parisianiste, parce que bon, ce qui se passe dans les coulisses du monde intéresse peu la société française. Alors j'ai vu encore que Kahn, il est dans le fantasme anti-trotskiste sur le mouvement le parallèle entre la nouvelle guerre du Golfe et le piétinement du mouvement des chômeurs dont on serait responsable. Bon, on essaie de le faire vivre le mieux possible avec les moyens qu'on a, on n'est pas seul en plus dedans. Non, ça je vois pas du tout, parce qu'il n'y a rien à voir ni comme culture politique, ni comme projet. On n'est pas. Bon, peut-être il nourrit ça, j'imagine, mais là c'est problème à lui, sur l'affaire de l'immigration qui aurait un versant libéral du gauchisme ou libéralisant. Franchement, je crois pas. Enfin, nous, on récuse complètement, si tu veux, la construction de Julliard, de la gauche morale et sociale. D'une part, subjectivement, on essaie d'être une gauche et morale et sociale et surtout politique, pas du tout faire l'impasse.
C'est vrai qu'il existe un versant libéral, en tout cas du post-gauchisme, d'un certain.
C'est quand même. C'est comme Bendit, si on veut résumer.
Ah, c'est comme Bendit, c'est un peu Libération, c'est un peu Le Monde, c'est un peu. C'est-à-dire que. On est quand même aussi dans une. Bon, le monde, c'est même pas un pluralisme organisé ou ordonné. C'est on accueille tout le monde de Balladur à Pierre Bourdieu. C'est-à-dire, hein, on crédit à une culture de plus en plus large. Hein, c'est quand même ça, il n'y a pas tellement de cohérence, si ce n'est que. Et d'autre part, bon, Libération, quand on peut parler d'un versant libéral, en tout cas du post-gauchiste, c'est que d'un côté, ça on n'insiste pas assez là-dessus, le supplément multimédia, les dessins animés qui marchent en une, et de l'autre, Le Pen, etc. Bon, ben ça, c'est en même temps les journaux qui sont aussi pris dans une logique marketing, donc qu'il ne faut pas se cacher, oui, mais qui n'est jamais, abordé comme tel, parce que quand Deleuze a dit le capitalisme, c'est la schizophrénie, il le disait lui en disant avec l'espoir que ça débouche sur un double mind créateur. Mais je veux dire, le double mind, là, il est installé comme c'est pas la république des notables, mais c'est la république des double mind, quoi. Donc, il y a quand même quelque chose de profond, là. Est-ce que l'alliance, justement, que tu dis entre la bourgeoisie d'État et la bourgeoisie d'affaires, elle ne se fait pas sans relais d'opinion, elle ne se fait pas sans une propagande qui permette que cette alliance se fasse. C'est ça que ça veut dire aussi un peu trotsko-baladurien. Au niveau strict de la presse et de la manipulation des opinions.
Non, mais alors, au niveau de la presse, là, on. Alors, la presse.
Qui s'est rétrécie en France.
Bon, alors la presse a une fonction politique. Elle est prise de, j'imagine, hein, je ne suis pas du tout spécialiste, d'un mouvement de réorganisation, de restructuration avec les enjeux financiers. Donc il y a un rapport au marché important. Bon, tout ça existe. Mais si je veux prendre le phénomène idéologique que la presse peut cristalliser partiellement dans tel ou tel titre, à tel et tel moment, mais le problème de fond pour moi, alors qui touche effectivement certaines couches, il y a un grain de vérité dans l'affaire des deux gauches de Julliard. Moi je le récuse parce que je pense que c'est caricatural, pas seulement parce que je le récuse pour moi ou pour le type de courant politique dans lequel je me reconnais, mais parce que je pense que plus largement, dans justement les mouvements des 4-5 dernières années, Il y a au contraire une colonne vertébrale qui, avec pas mal de continuité, a eu le souci de faire le lien entre ces terrains de radicalisation, c'est-à-dire d'être à la fois omniprésent sur les affaires sans papier, loi Pascoal Debré, etc., mais dans les grèves de décembre, alors des syndicats comme Sud, ou les petits mouvements de DAL, de AC, etc., on les a retrouvés sur ces fronts en permanence, et plus largement, parce que même la CGT, parfois formellement, mais a constamment signé, ou la gauche FDT qui vient de se faire ratatiner, aussi. Bon, donc il y a une composante là-dessus. Alors, en revanche, il y a un grain de vérité dans la description, au sens où sociologiquement, c'est vrai, si on regarde les manifs de décembre 95 et celles de printemps 97 sur c'était les sans-papiers, en fait, les lois Pascoal Debré, c'est pas la même population. Les cortèges, moi j'ai organisé la manif de février 97, c'était clair, bon, c'était compliqué, parce que par rapport à nos habitudes militantes, c'est une manif de citoyennes, d'individus. Et en gros, quelqu'un a dit que c'est la première manif de Front Unique Libération Le Monde, parce que ça a été plus ça que les organisations syndicales qui signaient, qui faisaient l'appel à la manif. Alors, ça est vrai. Et du coup, il y a bien une possibilité, un certain public, on le voit dans la mouvance cinéaste, etc., des pétitions du printemps 97, qui est une idée modernisatrice que peut symboliser Cohn-Bendit Parham, qui est tout ce qui est ouvert est bon à prendre, tout ce qui est ouvert va dans le bon sens. Alors tout ce qui est ouvert, c'est évidemment contre les lois Pasqua ou maintenant Chevènement, mais c'est aussi l'Organisation mondiale du commerce, tout ce qui transgresse et dépasse. Or non, moi le problème c'est que la politique, c'est pas... C'est pas le sans-frontières, c'est une organisation des espaces politiques. Alors ce problème-là, et dès qu'on a une pratique un petit peu plus militante... Donc il y a un discours idéologique qui peut être, là pour le coup la formule du trotsko-baladurisme ne paraît pas convenir, parce que le trotskisme là-dedans, mais qui peut être, disons, beaucoup plus cette idéologie-là, c'est-à-dire la mondialisation... Tout ce qui est ouvert va dans le bon sens. Non, non. Je crois que c'est des rapports de force à créer. L'internationalisme, ce n'est pas le cosmopolitisme marchand. C'est l'organisation de rapports politiques à partir de leurs différences, de leur histoire, de leurs rapports. Mais je crois que... c'est pour ça que pour moi, non, il y a presque une antinomie radicale par rapport à... Enfin, le libéralisme, c'est la forme conjoncturelle de capitalisme, au sens où les mécanismes marchands postent de commande. Alors, pareil, l'euro, c'est pas une question. C'est pour ça que toujours pareil, moi j'étais contre Maastricht. Alors, si on se situe dans cette optique-là, on dit bon, Maastricht, il y a des tas de merde, c'est pas très bien et tout, mais ça va dans le bon sens. Non, je pense que ça peut aussi être un moyen de discréditer un projet européen, tout simplement, que c'est pas. C'est pas une antinomie comme ça. Alors l'euro, la monnaie, est-ce que symboliquement, le truc de Cohn-Bendit dans son bouquin, c'est-à-dire le bon c'est bien parce que les mômes ils vont acheter les glaces en euros, oui, ça construit peut-être une représentation mentale d'un espace ouvert, mais je suis ni pour par principe une monnaie européenne, ni contre par principe. Le problème c'est en quoi elle traduit une évolution du rapport social. La monnaie c'est pas un fétiche comme ça, c'est des rapports de productivité, c'est des agencements d'espace. Alors, s'il y a un droit social derrière, bon, pourquoi pas une monnaie européenne, mais si c'est la gestion de la Banque centrale qui dessaisit à nouveau l'espace politique d'éléments de souveraineté pour renforcer le poids des exigences privées, bancaires ou des gros groupes industriels, ben non. Mais c'est pour ça que moi, je trouve là, il y a un vrai problème qui est celui-là, hein, qui est comment certaines couches aujourd'hui peuvent se sentir attirés par un discours de la modernité pour la modernité, de l'ouverture pour l'ouverture. Et c'est sûrement une sensibilité de pensée. Ça se résume mal dans l'histoire du transco-baladurisme, c'est pas pour moi.
Voilà.
Cette citoyenneté républicaine française a une conception universaliste à la fois de la culture et de la citoyenneté. Voilà pourquoi les Lumières françaises furent européennes. sans le savoir et sans vouloir l'imposer. Car enfin, imposer sa culture, c'est renier son européanité même, comme les pays totalitaires nous l'ont montré. Cette illusion supranationaliste suscite et suscitera une régression ultranationaliste, comme on le voit, soit en Flandre, pas loin d'ici, soit dans le nord de l'Italie. Le sentiment national dans ces divers pays européens n'est pas d'emblée tourné vers le nationalisme, vers une sorte d'universalisme européaniste, européanisé, ce qui veut dire que nous sommes obligés de définir l'appartenance à l'Europe comme un processus et jamais comme ni un cadre ni une identité fixe. Ce que disait, là encore, dans une conférence de presse, le général de Gaulle, vantant les mérites de Balzac, de Chateaubriand, de Dante, de Goethe, c'est parce qu'ils n'étaient pas des apatrides supranationaux, mais de grands écrivains profondément enracinés dans leur culture située et dans une langue particulière et riche, que leur réception persiste à être universelle. Dans cette richesse même, une langue particulière permet à l'esprit de résider dans son universalité même en faisant signe vers l'appartenance à une humaine condition. Dès lors, la fonction médiatrice de l'Europe peut être réaffirmée. La diversité des cultures européennes est le fruit de l'histoire. Et c'est une fois de plus vers Montesquieu qu'il faut se tourner pour comprendre cette fonction médiatrice de l'Europe, parce que l'Europe est, dit-il, modératrice. Pourquoi ? Eh bien, là encore, l'esprit des lois. Le commerce peut éluder la violence, dit Montesquieu. L'effet naturel du commerce est de porter à la paix. Pourquoi les nations européennes doivent se respecter mutuellement et que c'est ce respect même qui constitue l'identité européenne ? Parce que tout simplement, pour commercer, tu parlais du commerce, il faut en quelque sorte assurer sa propre paix intérieure, mais j'allais dire la paix de l'autre. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au XVIIIe siècle, le mot commerce avait cette espèce de polysémie de richesse que je n'évoque pas ici. Commerce des esprits, commerce des mots, commerce des relations. On a donc bien raison de prôner des échanges, voire même une monnaie commune, non pas réduite à une monnaie unique, c'est un autre débat. Le commerce, l'industrie. Mais on a vraisemblablement tort d'en faire un absolu, à moins que ce caractère absolu fonctionne comme une volonté d'amnésie, de transformer en oubli un certain nombre d'événements du passé. Et c'est évident dans les pays totalitaires où le rapport au passé est évidemment la négation d'éléments entiers et européens. Fondateur, je veux dire par là, deux exemples très courts, que la Rome antique de Mussolini tourne le dos à l'humanitas d'un Cicéron. Je veux dire par là que le nazisme ne serait pas possible sans le refoulement des lumières allemandes, de même que le ruralisme de Vichy ne serait pas possible sans la négation pure et simple de ce que je persiste à appeler l'esprit français avec Valéry. Or, que note-t-on dans ces trois cas ? Eh bien, ce que Rémi Brague appelle en 1992 du marcionisme culturel. C'est très amusant. Je vous rappelle que Marcion est un gnostique chrétien qui prétendait qu'on pouvait totalement lire le Nouveau Testament sans faire de référence à l'Ancien. Or, que nous montrent les Lumières, le siècle des Lumières ? C'est une définition de soi à partir de ce qu'il y avait avant. Ce que Rémi Brague appelle la secondarité culturelle, hors alignement européen, critères de convergence, construction, tout cela, ce sont des métaphores marcionnistes. Qu'est-ce que veux-je dire ? Je veux simplement dire que nous véhiculons l'illusion que nous pouvons nous définir, nous, uniquement à partir de nous. Je ne vous précise pas ici les délires, les persécutions mutuelles, les massacres que peut engendrer ce que j'appelle le marcionisme politique, dont le totalitarisme est à la fois la production de l'Europe et la négation de l'Europe. Évidemment, si ceux qui nient font un effort pour revenir sur soi, alors on a ce qu'on appelle une leçon de l'histoire. Mais pour cela, il faut avoir un courage extraordinaire. Bref, cette approche éclairée de l'idée d'Europe n'est possible que si on renonce à une essence de l'idée d'Europe, à quelque chose de substantiel. Je veux simplement dire que si l'identité européenne, c'est le fait de se questionner soi comme héritier d'eux, donc renoncer à notre immédiate impulsion à être martiens, à nous prendre pour nous-mêmes comme définissant nous-mêmes. Il y a là une illusion européiste et la négation de l'esprit européen. Mais, si vous m'avez bien suivi, pour celui qui est un peu amnésique, l'Empire romain de Mussolini, c'est presque l'Empire romain. Jamais un nazi n'a prétendu trahir le passé allemand. La révolution nationale vichyste pensée, sans mauvais jeu de mots, s'enracinait dans la France. Il y a donc là, à chaque fois, comme dirait Nietzsche, une nuance subtile, mais qui perd tout ou gagne tout. Le rôle des intellectuels, vous l'avez compris, c'est de montrer que, à quelques instants près, on bascule. Nous pouvons conclure en disant qu'il existe vraisemblablement une traduction politique et civique de cette secondarité culturelle de l'Europe. Ce qui entraîne une hypothèse que je livre à votre questionnement. Il me semble que si l'Europe est médiatrice vers l'altérité pour rester soi, la notion de citoyenneté européenne, excusez-moi, n'a strictement aucun sens. Bien sûr, à l'insérer dans une série qui irait de la citoyenneté nationale républicaine chez nous, vers une citoyenneté cosmopolitique bien comprise, et ce, par le biais d'une citoyenneté européenne, mais qui ne serait que ce mouvement de sortie de soi. Le paradoxe de l'idée d'Europe, allez voir ailleurs si on y est, c'est qu'on est d'autant plus soi que l'on renonce à affirmer, j'allais dire, une identité marcionienne de soi. Si ce mouvement, tout à fait valorisé par l'image de la traduction, le XVIIIe siècle, ou en général l'identité européenne, pour faire vite, le processus d'européanisation est tout à fait isomorphe au processus de traduction. Je conclurai là-dessus. Il faut en permanence traduire les concepts dont nous héritons à la lumière de ce passage et, comme dirait Régis Debray, que nous venons de voir dans une rencontre précédente, d'un effort de transmission de la mémoire au détriment de cette illusion de la communication qui crée une sorte en ce moment, communication immédiate, d'euro-disneylisation des esprits, qui n'a rien à voir avec l'anamnèse critique, j'allais dire, d'Européens qui, joyeusement, se promèneraient dans leurs propres ruines. Je vous remercie.
Merci, Charles Coutel. Alors, je ne sais pas si on complétait ou entrait en contradiction sur certains points, mais en tout cas, bon, il apparaît clairement dans ces deux approches que le problème de la citoyenneté et celui de la culture sont intimement liés. Hein, on pourrait rajouter à ce que vient de dire Charles Coutel que cette question de la transmission, elle a été quasiment redoublée, disons, après la chute du mur de Berlin. C'est vrai que c'est quand même à la fois paradoxal et étrange que, alors que du temps de la dissidence, comme on disait ici, je ne sais pas, par exemple, le philosophe Jan Patočka, le père de la charte 77, qui a, avec Václav Havel, qui avait contribué à la libération des droits civiques en Tchécoslovaquie, mais aussi, j'ai envie de dire, toute la littérature polonaise, enfin, qui avait fait une... Ces pauvres Polonais, à chaque fois, ils font une percée en France, comme ça, au moment du romantisme, 1848. Bon, il y a Mickiewicz qui vient en France, il y a Chopin, il y a même Mickiewicz avait une chaire au Collège de France. Enfin, ils viennent, ils repartent. Alors, c'est vrai que, par exemple, ils avaient fait une percée fin 70, au moment de Solidarność, et début des 80. Et puis, cette percée culturelle, hein, et Dieu sait si, en dehors de la culture, la Pologne est la première à frapper à la porte de l'Union européenne. Cette percée culturelle, pour les générations, même pas les générations, pour ceux qui sont arrivés 10 ans après, elle n'apparaît pas. Vous avez en folio Les fenêtres d'or de Kondzinski, le plus beau roman polonais sur le ghetto Varsovie. Moi, ça me sidérait, je me souviens, quand j'étais enseignant. C'était vraiment un livre mais qui était préfacé par Tour de Roi, Livre de Poche, etc. Enfin, aussi connu, si je puis dire, que Witold Gombrowicz. Gombrowicz est connu parce que, bon, il y a eu un peu de télé, des choses comme ça. Et il y a ce perpétuel rapprochement des peuples et éloignement. Alors, que dire, par exemple, de l'ex-Yougoslavie? Je prends l'exemple de l'Europe orientale. On a l'impression que, par exemple, que Danilo Kish, l'auteur de l'Encyclopédie des morts, était plus connu il y a 20 ans qu'aujourd'hui, ou d'une certaine manière, il est au cœur de la bataille. Alors là, il y a des miroirs, historiques, des rapprochements et éloignements qui sont très étranges. Et je pense qu'effectivement, on ne peut les comprendre, ces rapprochements par rapport au processus historique en cours, que par rapport au matraquage quand même, européiste, je reprends le mot, et encore une fois, européiste, ça ne veut pas dire, on est contre l'européisme, ça ne veut pas dire qu'on est contre l'Europe, hein. Loin s'en faut. Mais il y a effectivement une sorte d'évidence européiste, de même qu'il y a une sorte d'évidence citoyenne, qui finit par s'imposer comme une nouvelle propagande historique, unique, comme on aime à dire dans mon journal. Et c'est vrai que c'est, enfin, c'est à vous d'en discuter avec nous, qui est vraiment problématique dans le cas de la culture et de l'Europe. Parce qu'on voit bien quelle zone de tension, si vous voulez, ça dessine, et notamment en termes de, non seulement de mémoire, mais en termes de choix historiques. On a l'impression que la marge et la marge de manœuvre, disons, de l'individu et du citoyen sont comme rétrécies du fait de ce matraquage. Alors c'est évidemment là qu'il faut centrer sur les politiques d'émancipation et sur les politiques de transmission, parce que si on ne centre pas sur ces deux aspects, il est évident qu'on crée des zones, pour le coup, non citoyennes.
L'appauvrissement du terme commerce a des effets culturels, c'est-à-dire que je vous donne deux exemples tout à fait concrets. On a la Commission de Bruxelles a imposé la consommation massive de beurre chez nos amis grecs, qui font tout, et c'est délicieux, avec de l'huile d'olive, remettant en cause d'ailleurs leur équilibre cardiovasculaire. C'est autre chose. Plus grave et plus proche de chez nous, l'imposition d'une logique marchande dans ce qu'on appelle, pour faire vite, l'Europe de la pêche va tout à fait déstabilisé. Alors, on ne va pas vous faire la culture bretonne, hein, mais allez donc demander à nos amis pêcheurs dans l'île d'Ouessant ce qu'ils pensent de l'abstraction de la supranationalité appliquée à l'économie. Vous voyez, donc là, on est dans le concret. Hein. C'est pour dire qu'il y a, dans le surgissement, j'allais dire, authentique de l'idée d'Europe, des conséquences sur le commerce de la culture, alors que ces conséquences maintenant risquent de fragiliser l'idée même de culture prise dans sa diversité. Je veux dire, si un pêcheur breton pêche à l'hameçon et un pêcheur à la ligne, je veux dire, et un pêcheur basque espagnol pêche autrement, ça, alors qu'ils sont éloignés de quelques kilomètres, soit, c'est pas rien, c'est important, c'est une certaine façon d'exercer sa force, je suppose. Mais en tout cas, je ne vois pas pourquoi cette diversité serait niée sous prétexte que nous serions partie d'une entité politique. La métaphore de l'alignement est ici redoutable. Vous voyez comment d'ailleurs les métaphores architecturales sont complètement détournées. Hein, la construction, l'alignement, la convergence, tant qu'à faire. Là, je crois qu'il faut... C'est un travail poétique. Je veux dire que faire attention à ce qu'on dit, ça coûte pas cher, mais ça peut effectivement avoir beaucoup de conséquences. Notamment auprès des élus. Vous dites-leur à vos députés, les élections s'approchent, dites-leur, êtes-vous européiste ou européen? Je vous promets quelques perplexités. À vous de nous poser bien sûr des questions, ne nous faisons pas trop de dialogue entre nous.
Oui, madame.
Ce n'est pas une question, c'est deux précisions que je voudrais faire. Bon, d'abord, je veux pas entrer en polémique avec les livres. Il y a une culture et il y a une frontière entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud et les livres. Ensuite, je voudrais préciser une autre chose. Moi, je suis italienne et je connais bien la question, puisque je suis du Nord de l'Italie, la question des partis dont vous parliez, ultranationalistes, de l'Italie du Nord. Donc là, il y a deux facteurs, je ne veux pas donner de leçons d'histoire à personne, mais bon, il y a d'un côté le fait que l'Italie est un pays qui a une unité nationale très restreinte, 130 ans, un peu plus, et de l'autre côté, le parti ultranationaliste s'est affirmé dans l'Italie du Nord au moment où le parti majoritaire de la démocratie chrétienne a disparu, donc les gens se sont retrouvés sans point de repère. Ensuite, c'est un parti qui est surtout basé sur, pas tellement sur une unité culturelle, parce que ça n'existe pas, un peuple du Nord qui le dise, mais c'était surtout des revendications au niveau des impôts. Alors, ça, je voulais préciser.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est d'autant plus étrange, mais je ne veux pas parler longtemps, que. L'Italie est le laboratoire d'européanité de l'Europe. Et pour des raisons que, excuse-moi, c'est Condorcet, mais juste une fois, que Condorcet, je crois, appelle presque le paradoxe italien, tellement envahi, mais si peu longtemps, qu'on a le temps de récupérer le meilleur de celui qui est envahi, tout en restant soi. Voilà pourquoi, dès qu'un livre part en Europe, il est traduit 6 mois après, détrompez-moi, 1 an après, en Italie, le pays des traductions. Ce que tu traduis ou comment tu traduis, je te dirais que tu es tout à fait d'accord avec vos suggestions.
Le pays des traductions, et puis bon, on a été surpris là, durant Cité Philo, qui s'agissait de philosophie, de voir que l'Institut de philosophie de Naples, en liaison avec la RAI, avait constitué un véritable trésor de multimédia. Ayant trait à centaines de philosophes européens, ils ont enregistré pas moins de 1000 personnes. Donc, réaliser l'encyclopédie philosophique audiovisuelle de demain, et ils sont bien en avance sur la France en l'occurrence.
D'autres questions ?
Oui.
Alors, pour conclure, en fait, moi, le problème de diversité culturelle en Europe me pose quand même problème, puisque, bon, est-ce que simplement les pratiques culturelles, comme la différence entre la cuisine à l'huile, la cuisine au beurre, entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, peut présenter en tant que telle une diversité culturelle? Puisque bon, on peut très bien dire que dans ces cas-là, les Bretons font des crêpes et que dans le nord de la France, on mange plus de maroilles. Bon. Puisque, en parlant même du fondement culturel, est-ce que Aristote, finalement, serait plutôt grec ou puisqu'il est quand même le fondateur du certain principe politique en Europe, etc., est-ce que, pour moi, la culture résiderait-elle plus dans ses fondements en tant que tel, dans son fonctionnement? Et est-ce que nécessairement on n'est pas déjà tous européens? La République, finalement, dans ses prescriptions, a été un concept allemand, français.
Romain.
Comment?
Romain.
Romain, oui, mais en fait, c'est, ce que je veux dire, c'est que toute conception, c'est tout en construit par. Il y a une diversité, un brassage en Europe, et qui permet. Et en fait, le problème qui se pose finalement, c'est lorsque vous posez le problème qu'à Bruxelles, finalement, on fixe les règles existent les lois, par exemple, sur les manières de pêcher ou les temps de vie des couleurs, en fait. Ce que je voulais dire, c'est est-ce que finalement le problème, ça serait pas, et là je rejoins le problème sur la République, ce serait que nécessairement, en fait, le politique fixe tout le temps, finalement, la volonté générale, indépendamment même de la volonté de chaque individu, finalement.
Oui. C'est une série de questions. Hein. Le métissage européen est extrêmement original, comme on le voit à travers... Alors, diversité culturelle, l'exemple culinaire peut nous tromper, s'organise autour d'un certain nombre de faits symboliques, et notamment la langue. Hein. C'est ce qu'il reste quand. Formule de, enfin, c'est le début d'une formule de Heidegger. Ce que je veux suggérer, c'est que, personnellement, je suis extrêmement intrigué par le fait que les langues européennes sont d'autant plus elles-mêmes qu'elles absorbent, accepte de se laisser influencer par les autres. La plasticité de l'allemand est ici exemplaire européen. Sittlichkeit, moralité. C'est important de maintenir la diversité des mots. Quand on dit diversité culturelle, ça veut dire ça. Alors, le paradoxe européen, si provisoirement, sur le plan simplement méthodologique, vous acceptez d'en faire un concept, un processus de part en part médiateur, ça veut dire que européaniser une culture, c'est surtout la laisser dans son unité, mais universaliser cette unité à la lumière du risque de la traduction. Je veux dire que j'ai eu la chance de fêter le bicentenaire à Tahiti, bon, ça fait un peu malin de dire ça, bon. Mais j'ai rencontré les responsables de l'Académie tahitienne à Tahiti, à Papette, très bien. Ils avaient eu un mal fou à traduire la déclaration de 89 en tahitien. Or, antipode, vous vous souvenez d'Diderot, antérieur antipode. Eh bien, c'est passionnant. Les acrobaties, les difficultés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas... Nous, on a hérité le mot tabou. Vous vous souvenez? Dans la langue française, ça existe. Mais c'est du maori. Eh bien, ils ont eu un mal fou à produire le concept de droit. Ben oui, mais parce qu'ils avaient compris le problème que la notion de droit de l'homme permet de résoudre, les problèmes, peut-être aussi de poser, ils ont réussi à trouver. Alors ça donne une grande pierre qui se dresse. Enfin... C'est ça, pour moi, l'âme de l'Europe. C'est la capacité d'opérer des traductions identificatrices de diversité maintenues en tant que telles. Et ce trésor-là, je crois, nous l'avons parfaitement intégré en France, mais quand la France est peut-être français, pas de franchouillard. Et ça, c'est toujours, vous voyez, l'épaisseur d'un papier cigarette. On peut s'endormir français, se réveiller franchouillard. Ou l'inverse, ça dépendra de ce qu'on fait en général, de ce qu'on a pris comme somnifère. Non, mais c'est pas pour faire le malin. Nous vivons dans une conception substantialiste de la culture, qui est une régression fonctionnaliste et ethnocentrée, et en tout cas ethnologiste de la culture, alors que la culture européenne est extrêmement originale parce qu'elle est de part en part processus. Mais les Italiens nous montrent le chemin, ils sont d'autant plus eux-mêmes qu'ils s'ouvrent aux autres. Ça, c'est le paradoxe de la traduction. Ça, c'est Domenac dans C'est le défi européen. Il fait 10 propositions pour sauver l'Europe de la culture. C'est des formules superficielles, mais bon. Créer une institution européenne, alors il met ça sur la montagne Sainte-Geneviève, parce que tout simplement ça renvoie au fonctionnement universaliste de l'université médiévale, Sainte-Geneviève, la Sorbonne, la théologie au XIIIe siècle, et tout de suite après, multiplier à l'infini les exercices de traduction. Parce que c'est une posture européenne par nature. Il n'y a donc pas de culture européenne, mais des tentatives d'européanisation des cultures. Et ça, c'est, je trouve, original. Métissage, je ne sais que dire, et c'est, je pense que c'est une pratique. On est donc d'autant plus soi qu'on traduit les autres. Voilà, c'est une sorte de paradoxe étrange.
Oui, je crois qu'à ça, on peut ajouter que l'européisme actuel, et évidemment, on pourrait croire qu'il se présente comme... porteur d'avenir et plutôt Absolument. Victorieux. Mais sur le plan, de la culture, il est plutôt frileux et peureux. Parce qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, juste avant l'euro, on se rétracte sur notre Union européenne à nous. Et ce que je vous disais tout à l'heure, sur le plan culturel, l'ouverture, la fameuse ouverture à l'Orient, à l'Europe orientale et à l'Europe de l'Est, et à la Russie, elle ne s'est pas faite. Prenez l'exemple de l'université européenne qui a été fondée juste après le putsch de Moscou, eh bien, elle se rétracte totalement. Il y a eu, les Français sont arrivés à Moscou en 91, 92, 93, 94, puis sont revenus. Et aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de conférenciers qui vont à Moscou. L'engouement passé, l'engouement pour... Et comme dit Solzhenitsyn, le capitalisme russe étant une caricature du capitalisme et du libéralisme. Mais c'est justement maintenant qu'il faudrait, d'une certaine manière, les soutenir. Je me souviens, moi, je suis allé une fois en Sibérie, à Irkoutsk, et j'étais totalement fasciné. Il y avait un club Jacques Prévert à Irkoutsk, et je suis débarqué à un véritable petit centre culturel. Ils étaient au courant de tout ce qui se jouait à Irkoutsk, à Berlin, à Milan, à Paris, etc. Ils avaient une saison d'avance sur moi. Je n'étais absolument pas, mais t'as vu ce qu'il joue à l'Odéon, à Milan, etc. Ces gens-là, évidemment, il ne faudra pas s'étonner qu'ils se lassent. Ça, c'est un exemple très, très, très pratique, si vous voulez, quand on bouge. Ce n'est pas la même chose aujourd'hui en Amérique latine, où là encore, il y a effectivement un appel d'air réel, il y a une jeunesse absolument formidable dans Colombie qu'on déclenche toujours.